L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors Maud, nous allons aujourd'hui dans cette émission L'Évangile pour le couple et dans cette longue série que nous consacrons à la mission d'évangélisation et de témoignage du couple chrétien, nous allons aborder un point aujourd'hui où il est important comme critère de discernement de nos missions le fait que la mission doit être attestée par des fruits. C'est une constante dans l'Évangile, une constante dans l'histoire de l'Église, même si bien sûr ça passe également par la croix. La mission, quand le Seigneur nous envoie en mission, il ne nous envoie pas au casse-pipe. Il nous envoie pour annoncer sa parole, pour que les cœurs soient touchés, etc., etc. Et donc nous allons commencer, Maud, par cela, par un texte dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean.
Jésus réunit les 12. Il leur donna autorité sur tous les démons et puissance pour guérir les malades. Puis il les envoya proclamer le royaume des cieux et rendre la santé aux infirmes. C'est ainsi qu'ils allèrent, parcourant les villages. Ils proclamaient partout la bonne nouvelle et multipliaient les guérisons. Et un peu plus loin, « Allez, racontez à Jean ce que vous entendez. Les aveugles retrouvent la vue, les éclopés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et les pauvres entendent la bonne nouvelle. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi des œuvres que je fais. Et comme je retourne vers le Père, il en fera de plus grandes encore. »
Donc vous voyez combien l'Évangile insiste sur le fait que l'annonce de la prédication est liée à des œuvres, à des fruits concrets qui se passent durant la mission. Et donc, d'une manière ou d'une autre, l'annonce de la bonne nouvelle doit être attestée concrètement par des fruits. L'Évangile et les paroles du Christ sont pour cela très claires. Des œuvres que je fais, dit le Christ, le disciple en fera de plus grandes encore. Et ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux. Donc vraiment, le Seigneur agit avec nous, à nos côtés. Ce n'est pas nous qui agissons, ce n'est pas nous qui faisons fructifier. C'est le Christ, c'est l'Esprit-Saint qui fait fructifier la mission.
Oui, un des éléments essentiels de la mission, c'est de bien comprendre que c'est d'abord une expérience spirituelle avant d'être un engagement humain. C'est-à-dire que les fruits de la mission, les résultats de la mission vont être donnés par l'Esprit-Saint. Et l'aptitude, je dirais, du missionnaire à toucher les cœurs, etc., est fait par l'Esprit-Saint, est réalisé par l'Esprit-Saint. Il n'en est que le canal.
Voilà, alors tu introduis justement un texte très fondateur, parce que c'est le démarrage des Actes des Apôtres, chapitre 4 des Actes. Nous sommes dans un contexte où vraiment il y a une très forte pression contre les apôtres de la part des Juifs, des peuples d'Israël, des Romains, d'Hérode, etc., etc. Donc ils sont dans un contexte de menace, un contexte vraiment agressif qui est difficile. Et donc voilà la prière des apôtres. Donne à ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Donc la parfaite assurance qui est en vis-à-vis justement du contexte difficile. Accomplis, Seigneur, des signes et des prodiges par le nom de Jésus. Voilà. Donc même dans un contexte difficile, justement, on a rentré dans cette foi dans le nom de Jésus pour que la mission porte des fruits. Et comme leur prière se terminait, rapportent les Actes, le lieu où ils étaient se mit à trembler et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et la conséquence, ils annonçaient, disent les Actes, ils annonçaient la parole avec assurance. Donc c'est vraiment l'Esprit Saint, c'est l'accueil de l'Esprit Saint qui fait grandir en nous la foi, qui fructifie en assurance, qui fructifie en conviction de foi. Et à ce moment-là, conduit à la mission qui est accompagnée par des signes que donne le Seigneur, que donne le Christ.
Oui, on peut dire aussi, le prendre la chose dans l'autre sens, c'est que c'est la foi des apôtres qui, dans leur prière, demandent avec foi que le Seigneur leur donne cette assurance et ils reçoivent l'Esprit-Saint qui effectivement leur permet d'annoncer la parole. Donc il y a la foi et l'esprit vont ensemble, et comme dit Jean-Paul II, la mission ne s'appuie pas sur les capacités humaines, mais sur la puissance du ressuscité. Donc c'est dans la grâce de la résurrection du Christ que nous annonçons la parole.
Voilà, c'est certes les fruits apostoliques appartiennent au Christ, pas à nous. Mais si la mission ne porte pas du fruit, elle pose question à notre foi. Est-ce que nous sommes véritablement dans l'Esprit Saint, dans l'attitude juste? Nous avons par exemple dans les évangiles l'expérience de l'évangile du fils lunatique, où ce sont les apôtres qui essayent de guérir ce fils lunatique. C'est dans Matthieu au chapitre 17, et ils n'arrivent pas à le guérir. Et les apôtres viennent voir le Seigneur, et le Seigneur d'ailleurs les rouspète un peu en disant mais quand est-ce que
combien de temps je vais devoir encore
vous supporter, etc., etc. Donc ils ne se disent pas tiens, le fils lunatique n'est pas guéri, c'est que le Seigneur ne veut pas guérir cet homme. Non, ils disent pas ça. Ils disent si nous n'arrivons pas à guérir cet homme, c'est qu'il y a un problème dans notre attitude. Or, souvent, on dit, il n'y a pas de fruit dans la mission. Oh, mais c'est le Seigneur doit le vouloir. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, quand il y a des problèmes de fruits dans la mission, allez, à 95% du temps, c'est quelque part notre problème d'attitude personnelle, d'attitude conjugale. C'est qu'à un moment, il faut se remettre en cause. Et l'Évangile est très clair par rapport à ça. Ils ne sont pas en train de remettre en cause le Seigneur. Ils sont en train de se remettre en cause, mais... pourquoi notre foi est stérile? Pourquoi notre engagement dans la mission ne porte pas du fruit? C'est important de se remettre en cause, avec discernement bien entendu, mais dans cette dynamique-là.
Oui, d'ailleurs le Christ reprend qu'il faut davantage de prières et de jeûnes, donc davantage d'outils spirituels pour pouvoir guérir cet enfant. Donc dans notre attitude personnelle, on a trop souvent tendance à démissionner par rapport à l'implication au résultat de notre travail. Pardon. On considère par exemple que s'il n'y a pas de fruits, tant pis, c'est que ça marche pas, c'est que on a fait tout ce qu'on pouvait, c'est déjà très bien tout ce qu'on a fait. On est finalement assez auto-satisfait d'avoir donné des choses, du temps pour le Seigneur, d'avoir fait des choses pour lui. Mais s'il n'y a pas de fruits, on se remet pas en question.
Alors, il ne reste pas moins, Aude, que par rapport à ce que tu exprimes, il y a quand même un éclairage évangélique qui justifie quand même cette situation. La parole de Dieu est très claire quand Jean, dans le chapitre 4, rapporte « autre le semeur, autre le moissonneur ». Et effectivement, c'est vrai, à des moments, la parole est semée par certains, et finalement, la récolte va être faite par d'autres. Et ça, c'est vrai, c'est une constante. Mais du coup, nous avons érigé cette parole comme un principe fondamental et quasiment unique de la mission. D'autant plus que la mission, effectivement, on le voit bien depuis un certain nombre de dizaines d'années, elle est quand même très difficile, et les fruits apostoliques, souvent extrêmement maigres. Mais du coup, voilà, on s'abrite un peu derrière certaines paroles comme ça, alors autre le semeur, autre le moissonneur, ou nous sommes de simples serviteurs.
Oui, voilà. Qui est souvent d'ailleurs traduit par serviteur inutile, et ce qui n'est pas tout à fait une bonne traduction. Nous sommes de simples serviteurs, c'est vrai, mais avant de dire qu'on est de simples serviteurs, il y a quand même écrit « quand vous aurez fait tout ce qu'il vous pouvait faire ». Donc c'est-à-dire qu'on s'est quand même, activé pour faire en sorte que ça y ait quelque chose qui se passe.
Pour reprendre l'exemple du fils lunatique, les apôtres, ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Et ils se sont bien rendus compte, disant, mais on n'en a pas fait. Et on a été voir Jésus, ils se sont pris une bonne engueulade, mais Jésus leur a dit, mais non, ce démon-là, il se chasse par le jeûne et par la prière. Donc il leur a apporté la solution. Les apôtres ne se sont pas justifiés. Ils se sont interpellés, ils se sont remis en cause. Et c'est pour ça que il est important, délicat, mais il est important, et il y a un certain nombre de théologiens aujourd'hui qui le soulignent, si vous voulez, que finalement toutes nos difficultés effectivement apostoliques que nous avons depuis un certain nombre d'années, il y a un peu une théologie entre guillemets de l'échec pastoral qui s'est développée en disant mais finalement et même c'est un renoncement à voir les fruits de la mission, etc., etc. C'est pour cela que un certain nombre de théologiens reviennent et de pasteurs reviennent sur ce principe. Non, la mission doit porter des fruits. Voilà, par exemple, Dom Pidgey, qui a développé cette pastorale des cellules d'évangélisation, qui a renouvelé des centaines de paroisses dans toute l'Europe. Voilà ce qu'il dit. L'évangélisation doit conduire à des résultats concrets et vérifiables, c'est-à-dire à la conversion des non-croyants ou des peu-croyants, et pas simplement au maintien et à l'accroissement de la foi de ceux qui croient déjà. Jésus n'envoie pas ses disciples pour maintenir un statu quo, mais pour modifier et changer le monde. Donc l'objectif, il est clair. L'objectif, c'est de conduire à la conversion. Et ça se traduit par des résultats concrets. Vous vous rendez compte, si les apôtres, au début de l'histoire de l'Église, avaient dit « Oh, s'il n'y a pas de résultat, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. » Bien sûr qu'il y a des situations à un moment, qu'il y a des épreuves, il y a des situations délicates, il y a des moments où ils sont rejetés, etc., etc. Mais au fur et à mesure, la mission a porté du fruit. Et c'est toute l'histoire de l'Église. Vous imaginez si jamais, dans toutes les vagues missionnaires qu'a connues l'Église, nous avions connu des gens qui étaient aussi défaitistes en disant « Écoute, c'est pas grave, s'il n'y a pas de fruit, c'est pas grave. » Non, non, il faut que cela porte des fruits.
Oui, il semble que justement cette attention aux fruits n'est pas une obsession, mais les fruits sont donnés comme signe pour attester que nous sommes dans le bon chemin. Rappelons-nous les disciples quand ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien pris, c'est sur la parole de Christ qu'ils ont changé le côté, qu'ils ont pêché de l'autre côté de la barque et qu'à ce moment-là les filets ont été pleins. Donc il faut qu'on soit juste dans notre discernement. Si dans notre mission nos filets sont toujours vides, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part, parce que c'est pas l'objectif du Christ de nous faire perdre un temps considérable pour zéro fruit missionnaire. Si c'est pour nous faire plaisir et que on dise on a pris du temps pour faire des choses pour le Seigneur et tout, etc., à ce moment-là, c'est de l'orgueil humain, on n'est plus dans la mission.
Sur un exemple qui concerne particulièrement les couples, notamment la préparation au mariage. Ça fait 20 ans qu'on se balade un peu de droite, de gauche, qu'on voit différents types d'expériences, etc. Et on voit à des moments qu'il y a des lieux dans lesquels il y a la préparation au mariage, mais depuis 10 ans ou 15 ans, mais pas un couple qui s'est préparé au mariage n'a rencontré le Christ et s'est converti. Et la très grande majorité, 95% ne sont pas croyants en arrivant, et 95% ne sont pas croyants même quand ils sont mariés. Donc je veux dire, en termes apostoliques et missionnaires, quasiment aucun fruit. D'autres pastorales et d'autres méthodes, mais on est émerveillé, même les premières années où elles se mettent en place, on a quasiment plus de la moitié des couples qui ont été, je dirais, accompagnés à la préparation au mariage, mais une préparation résolument missionnaire. On a quasiment la moitié des couples qui ont accueilli le Christ avec des chemins de guerre, etc., mais qui vraiment désirent cheminer. Et même, c'est impressionnant dans différentes pastorales, on voit même des équipes où il y a quasiment le quart de ceux qui étaient préparés au mariage l'année d'avant qui se mettent déjà au service de l'annonce de la parole pour ceux qui se préparent l'année d'après. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça a tellement été fort et important pour eux qu'ils veulent redonner un peu de ce qu'ils ont reçu.
Oui, et c'est l'expérience justement des apôtres sur quand le Christ dit « Vous donnerez beaucoup de fruits, un 100 pour un, etc. » La même énergie produit un résultat complètement différent quand on est vraiment dans la grâce missionnaire et la grâce de ce que le Christ nous demande de faire. D'où notre responsabilité d'être capable de se remettre en cause aussi en fonction des fruits.
On se retrouve dans un instant. Voilà Maud pour parler des fruits de la mission.
Voilà, nous avons parlé des fruits que la mission doit produire si nous sommes vraiment dans l'Esprit Saint et selon la pédagogie du Christ.
Conduire vraiment vers des fruits de conversion. Alors au moins, on ne voit pas tout d'ailleurs, Maud, on ne voit pas tout de ces fruits-là.
Non, mais au moins avoir des indicateurs sérieux comme quoi on est dans le bon chemin.
Voilà, ça appartient, les fruits aussi appartiennent au Seigneur, au secret des cœurs. Mais l'important, dans la mission, d'avoir une évaluation sur les fruits que porte la mission, parce que le Seigneur ne nous envoie pas au casse-pipe, comme disait Don Pidgey.
Voilà. Alors ça, c'est les fruits extérieurs, Alex, mais c'est aussi...
Extérieurs à nous. Mais après, il y a les fruits
qui nous concernent, nous, en tant que couple, et qui permettent aussi d'avoir un discernement par rapport à notre action missionnaire, en relisant les fruits que ça porte dans notre vie conjugale et dans notre foi personnelle et en couple.
Oui, alors c'est ça qu'il faut pouvoir, je dirais, bien entendre, c'est que c'est un cadeau du Seigneur aux missionnaires, aux témoins. C'est que l'exercice de la mission nous donne aussi des fruits personnels intérieurs. Voilà, par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, voilà ce qu'il est dit. À un moment où ils étaient seuls, Jésus leur dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. » Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Cette parole est dite au retour de l'envoi en mission des apôtres et des disciples en mission. Ils reviennent et ils rapportent tout ce qu'ils ont vu, tout ce dont ils ont été témoins. Et c'est une joie immense. Et effectivement, c'est parmi nos plus grandes joies personnelles et conjugales de voir les fruits de la mission, de voir les cœurs qui s'ouvrent, etc. Depuis un an et demi, nous travaillons à l'accompagnement spirituel d'un couple qui était très très loin du Seigneur, avec beaucoup de valises, et c'est extrêmement merveilleux de voir leur mariage dans un mois et demi, et c'est extraordinaire de voir au fur et à mesure cette dilatation, cette libération, etc. C'est une des plus grandes joies qu'il ait donné de voir ce cœur qui était plein de bonne volonté mais tellement loin du Seigneur, avec tellement de valises, qu'au fur et à mesure, le Seigneur fait ce travail de guérison, de libération, et surtout attire à lui, attire.
Et puis notre foi est confortée lorsqu'on voit les fruits de l'Esprit dans le cœur des autres aussi, parce qu'elle est attestée par ce que nous vivons, mais aussi parce que nous voyons de l'évolution des autres. Et c'est une grande joie en couple d'être appelé à coopérer à la mission du Christ. Cela vraiment nous remplit d'une sorte de densité de vie qui est magnifique.
Rapporte-nous justement, Maud, les paroles de l'évangile de Luc.
Voilà, s'il faut vous réjouir, dit Jésus, ce n'est pas parce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux.
Donc finalement, ce n'est pas tant parce que nous voyons les fruits de la mission, mais ce que montrent les fruits de la mission, ça montre combien l'esprit nous accompagne. Et ça montre pour que nous sommes, ça conforte le fait que nous sommes envoyés. Et ça conforte notre foi. Ça conforte notre perception de l'amour du Seigneur, notre conviction, notre certitude que nous sommes aimés infiniment et accompagnés par l'Esprit Saint.
Alors, la mission est aussi attestée par les fruits de l'Esprit que nous avons dans notre cœur.
La joie, voilà.
On a commencé par la joie et la louange, c'est-à-dire que ça nous pousse à louer le Seigneur, de voir les merveilles qui se déroulent sous nos yeux, d'être témoin de la force de la parole quand elle pénètre les cœurs et les vies. Et cette joie intérieure, elle nous saisit avec une force qu'on n'imagine pas.
Alors rapporte-nous, Maud, cet évangile. Chaque fois qu'on lit, on en frémit, parce qu'il est extraordinaire de saisissement de l'expérience spirituelle et humaine qu'est la mission.
Voilà, vous trouverez ce texte dans Luc au chapitre 10. À cette heure même, Jésus fut pris tout entier par la joie de l'Esprit Saint. Il éleva la voix et dit « Je proclamerai tes grandeurs, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Et tu les as révélés à des tout petits.
Voilà, nous pensons profondément, une des plus grandes joies. Nous le disons en tant que parents, nous avons vécu 5 enfants, c'est la joie de nos vies. Mais c'est vrai que cette expérience de la mission, cette exultation de l'Esprit Saint, quand on voit le Seigneur qui agit, touche les cœurs, sauve des vies, etc., etc., mais c'est vraiment parmi les plus grandes joies, sinon la plus grande joie qu'il peut être donnée à un homme et à une femme.
Voilà. Et on souhaite vraiment que chacun d'entre vous puisse connaître cette joie de voir l'œuvre du Christ dans les cœurs. C'est vraiment extraordinaire de participer ainsi à la mission du Christ.
Alors, on aimerait, Maud, effectivement souligner, certains disent, waouh, ouais, peut-être, mais c'est génial, mais attends, moi j'ai jamais fait cette expérience-là, comment on pourrait la faire, et tout, et tout. Bon, et bon, alors on imagine peut-être des jeunes qui disent, waouh, ouais, on a toute la vie pour pouvoir vivre ça, et puis peut-être certains qui sont plus âgés ou qui n'ont pas fait cette expérience-là, qui sont comme nous à mi-parcours de leur vie, etc., et qui disent, mais attends, mais tu crois qu'on peut vivre ça-là? Voilà, et c'est là où il faut se rappeler, Maud, de la parabole
des ouvriers qui sont envoyés à la vigne. Le Seigneur nous dit que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et tout ouvrier est le bienvenu, quelle que soit l'heure de sa vie, où il décide de mettre ses pas et sa voix au service du Seigneur, vraiment de façon explicite. Peut-être qu'il l'a déjà fait dans d'autres formes, mais là, le Seigneur lui demande, parce qu'il y a une urgence aujourd'hui, et je pense que vous l'aurez compris dans toutes ces émissions, une urgence à annoncer, et notamment à annoncer la parole sur l'amour conjugal.
Et là encore, le Seigneur n'appelle pas, on l'a fait dans une émission, on a vraiment insisté sur le fait que l'Église appelle d'abord des pauvres et des paumés, et des gens difficiles et des gens qui sont malades. Jésus est dit, je suis venu pour les bien portants et pour les malades, et il a envoyé également des malades guéris par le Seigneur en mission, et que Pierre et Paul sont les deux plus gros tocards de l'Église, avec tout ce qu'ils ont été, leur caractère, etc., etc., l'un criminel, l'autre poltron. On revient pas là-dessus. Donc, le Seigneur ne nous appelle pas en raison de nos qualités. Il nous appelle en raison de l'amour, de la foi que nous mettons en lui et de la miséricorde. Donc même si jamais on a galéré, même si jamais on s'est trompé, même si etc., qu'importe. L'important, c'est aujourd'hui le Seigneur nous tend la main pour dire participer à cette mission. Elle va porter du fruit à l'extérieur, mais elle va apporter aussi du fruit dans vos propres vies. Vous allez voir, vous allez goûter une expérience qui est absolument unique, exceptionnelle. Et pour finir, Maud, on aimerait pouvoir lire ce texte magnifique du prophète Jérémie qui s'applique pas directement à la mission, mais que nous pouvons transposer à la mission. Voilà, lisons-le, Maud.
Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit.
Voilà. Voilà, tel est le couple, telle est la famille, tel que le Seigneur l'appelle à accueillir d'abord, à planter ses racines au bord du ruisseau, pour qu'effectivement il y ait un feuillage abondant qui puisse vraiment se développer. Et à ce moment-là, malgré les épreuves, malgré les difficultés, il y a cette joie profonde qui l'habite. Et forcément, il porte du fruit parce qu'il habite dans la maison du Seigneur. Et donc, c'est pour cela qu'il est si important d'habiter avec le Seigneur, de vivre avec lui en tant que couple. En tout cas, Maud, c'est vraiment à cette bénédiction qu'on invite tous et chacun.
Oui, pour que vous soyez tous là où le Seigneur vous a placé, des missionnaires de sa parole avec enthousiasme, zèle, et que vous goûtiez les fruits de la mission pour vous-même et pour votre entourage.
En tout cas, c'est vraiment notre prière. Nous invoquons vraiment l'Esprit Saint sur chacun de vous, chacun des conjoints, chacun des membres des familles, pour que vraiment vous puissiez vivre cette prophétie du prophète Jérémie, et que vous puissiez l'incarner dans vos vies, et qu'elle porte un fruit d'abondance. Que le Seigneur soit béni, soyez bénis vous-même.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.